18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes jeudi 30 janvier et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'infos locales et citoyennes de Radio U sur le 101.1 FM. Aujourd'hui, votre quotidienne préférée est légèrement chamboulée. En raison d'une formation des volontaires en service civique qui s'occupent de la quotidienne, nous ne sommes pas en mesure de vous présenter une émission complète. Nous ne sommes pas venus les mains libres. En effet, lundi 3 février débute la semaine de la recherche de l'Université Occidentale de Bretagne, alias l'UBO. Pour nous en parler, Hervé Lemaine, médiateur scientifique de la bibliothèque universitaire, a rencontré hier à Radio U l'enseignant-chercheur de l'UBO, Christian Brosseau. Puis en fin d'émission, nous vous proposerons un reportage réalisé dans le cadre du programme L'économie autrement de la Corlab. Aujourd'hui, nous restons sur Brest, direction le Maquis, dans le quartier de Saint-Pierre. Mais avant ça, on écoute cet entretien réalisé par Hervé Lemaine, médiateur scientifique des bibliothèques universitaires de Brest.
Bonjour Christian Brosseau, vous êtes professeur des universités, enseignant-chercheur en physique et vice-président recherche et innovation en charge de la commission recherche. Vous pilotez la semaine de la recherche qui se déroule du 3 au 7 février. Qu'est-ce qu'une semaine de la recherche ?
Alors bonjour Hervé, une semaine de la recherche, c'est un événement qui se situe en fait dans le prolongement des différentes journées de la recherche que nous avons organisées à l'UBO et qui a pour vocation de finalement de casser un petit peu les murs de l'université pour faire venir un public qui n'a pas vocation première à rentrer dans nos murs et montrer que l'Université de Bretagne Occidentale positionne ses chercheurs sur de nombreux défis sociétaux, environnementaux, générationnels, numériques qui intéressent finalement nos concitoyens.
D'accord, en fait vous répondez par avance à pas mal de questions. L'événement s'intitule « Imaginons le monde de demain, partager, transmettre, rencontrer ». Pourquoi l'université doit-elle se projeter dans le monde de demain ?
Alors cet événement, en fait, il correspond à peu près aux 50 ans de l'université. Et donc 50 ans, c'est toujours une période importante dans sa vie. C'est là que les premières rides apparaissent. On fait un petit peu le bilan de sa vie et puis on essaie un petit peu de se projeter dans les... peut-être les 50 prochaines années, ou disons dans le futur. Et plutôt que de se lamenter sur un petit peu le passé, nous avons décidé un peu de construire cette semaine de la recherche sur des événements en posant différentes questions qui intéressent les générations à venir. Quel climat dans le futur? Comment perçoit-on l'influence de l'intelligence artificielle dans nos vies? Comment peut-on imaginer une médecine plus personnalisée, etc., etc. Donc il y a beaucoup de points d'entrée. C'est un événement qui est gratuit, ouvert à tous. Et donc nous espérons faire venir évidemment nos étudiants, mais aussi des lycéens, des collégiens, et puis des retraités, tous ceux qui ont du temps pour un petit peu partager notre savoir, le savoir qui est créé par nos chercheurs. Et puis, vous savez que les deux grandes missions de l'université, c'est construire de la connaissance, donc c'est la recherche, et puis la faire partager, c'est la formation. Mais au-delà de ces deux jambes, un petit peu, sur laquelle l'université marche, on a obligation, et c'est dans le code de l'éducation, de promouvoir des actions de culture scientifique, technique et industrielle, la fameuse CSTI, oui, qui est pilotée par la région Bretagne, et qui a vocation, justement, à ouvrir les portes de l'université à nos concitoyens.
D'accord. Vous avez cité dans les grandes thématiques, il y a intelligence artificielle, il y a médecine, notamment la génétique avec sa capacité de prédiction. Il y avait deux autres domaines qui m'échappent là.
Alors il y a donc une matinée qui est dédiée aux transitions énergétiques, à l'évolution, oui, du climat. Comment peut-on changer de modèle de société pour justement éviter que l'influence de l'homme soit trop prégnante dans l'évolution du climat? Nous avons aussi une après-midi dédiée à l'influence des sciences et de la technologie sur la fondation des politiques publiques. On s'aperçoit que quand on lit des journaux, quand on reçoit des tweets, qu'il y a beaucoup de fake news en fait, qui polluent un petit peu le débat démocratique. Et donc, il est quand même important d'écouter les chercheurs pour éviter de lire que la Terre est plate ou prendre en compte des arguments des climato-sceptiques qui, malheureusement, existent encore.
Oui. Vous avez cité donc cette différente thématique. Quel est le savoir-faire particulier de l'UBO dans ces domaines ?
Alors, il y a deux grands signaux forts, disons, de la part de l'établissement. Il y a évidemment les sciences marines, vu la position géographique de Brest, et puis le potentiel de nos chercheurs, notamment à l'IUM, sur ces thématiques. Mais il y a aussi, et c'est peut-être moins connu, des avancées notables en matière de recherche clinique et académique sur les domaines de la médecine. Nous avons trois unités INSERM qui font partie des meilleures unités françaises, notamment en matière d'imagerie médicale, en matière de génétique, donc comment tracer une pathologie à partir d'une cartographie génétique. Et puis, donc en immunologie, vous savez que les immunothérapies sont vraiment des thérapies extrêmement pointues et extrêmement innovantes, notamment pour traiter le cancer.
D'accord. Le programme est dense, il y a 13 sessions de 2 ou 3 heures en 4 jours. Les thèmes sont très variés et portent autant, donc, on l'a vu, sur la recherche que son pilotage, ses relations, la relation de la recherche avec l'entreprise, sa valorisation et ses incidences sur la société. Pourquoi laisser une place aussi importante aux incidences socio-économiques des recherches scientifiques ?
Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un sujet qui intéresse nos concitoyens. Si on va trop loin, disons, dans le sujet scientifique, on va se heurter à un discours de spécialiste. C'est vraiment pas l'objectif de cette semaine, ce qui est plutôt de partager, d'éclairer nos concitoyens sur des thématiques transversales. Et puis les SHS, donc les sciences humaines et sociales, sont vraiment des sciences transversales. Elles interviennent partout, que ça soit pour comprendre les enjeux climatiques sur la société, pour essayer de percevoir comment une médecine de précision va améliorer la vie, la durée de vie de nos concitoyens, etc., etc. Donc je pense que ces sciences humaines et sociales, eh bien, sont au cœur de cette semaine de la recherche et irriguent un peu toutes les problématiques. Alors on le verra à travers différents événements. Je pense quand j'ai rencontré tout à l'heure un doctorant, je lui ai dit « Mais quel est l'intérêt pour moi de venir à la semaine de la recherche ?» Il m'a dit « Écoute, si tu veux voir un prix Nobel, si tu veux voir un spationaute, si tu veux voir un ancien ministre, eh bien, c'est la bonne semaine. Ouais. Alors, on ne va pas les encourager à ne pas aller en cours, parce que bon, c'est une semaine de cours aussi, mais je pense qu'il y a beaucoup de points d'entrée où chacun va y trouver des réponses sur des problématiques qu'il se pose.
Oui, vous avez évoqué un spationaute, donc c'est Jean-Loup Chrétien, pour la session Conquête de l'espace. Pourriez-vous en dire un peu plus sur cette session particulièrement, que vous animez d'ailleurs ?
Oui, alors l'espace, c'est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'espace est véritablement un enjeu de la Bretagne. C'est vraiment un enjeu pour lequel la région Bretagne veut investir des moyens, parce que en Bretagne, nous disposons d'une compétence, d'une expertise, notamment sur l'observation satellitaire. Donc, nous avons des unités de recherche à la fois copartagées avec l'UBO, l'IFREMER et les grandes écoles, IMT, INSTA Bretagne, où finalement, un certain nombre de nos collègues ont mis au point des technologies qui, à partir de l'observation satellitaire, permettent d'avoir des informations extrêmement fines, à la fois sur l'océan, donc en surface ou un petit peu sous la surface, mais aussi pour la détection, je dirais, de l'eau. Dans l'agriculture, évidemment, il faut disposer de réserves d'eau. Et les observations satellitaires permettent de détecter ces zones. Et évidemment, pour la région Bretagne, c'est important de pouvoir les contrôler, de pouvoir les piloter, parce qu'on sait qu'évidemment il y a une évolution climatique qui n'est pas forcément favorable à l'agriculture, et on le voit tous les jours.
Vous pilotez aussi une session dont le titre est « L'intelligence artificielle a-t-elle besoin d'humanité ?» Alors, quelle est la diversité des disciplines mobilisées pour répondre à une question aussi vaste, aussi large ?
Alors, vous avez raison, l'intelligence artificielle, c'est à la fois donc une très grande richesse, parce qu'on s'aperçoit, notamment, j'ai évoqué tout à l'heure le sujet de la médecine, que pour à partir de cartographie génétique, on pouvait arriver à déduire des pistes pour une réponse thérapeutique, mais ça nécessite de manipuler des téraoctets, c'est-à-dire du big data, des données gigantesques. Et donc pour ça, il faut disposer de nouveaux algorithmes qui ne peuvent pas être traités par les algorithmes classiques. Donc il faut inventer de nouvelles technologies et l'intelligence artificielle permet de résoudre cette problématique. Alors on peut trouver d'autres exemples, évidemment dans les sciences non médicales, le fait d'avoir un réseau Argo par exemple de balises qui permettent de mesurer la salinité de l'eau de mer, la température, les courants, etc. Ça génère aussi des milliards de données qu'il faut traiter pour en déduire une modélisation physique. Alors ça, c'est un petit peu l'aspect technologique, mais l'intelligence artificielle, comme l'ont rappelé différentes personnalités, je pense à Bill Gates, à Elon Musk, par exemple, le fondateur de Tesla, peut aussi générer des peurs. L'idée, qui a largement été propagée par des séries de science-fiction ou des films, montre qu'on pourrait être en capacité de créer de l'intelligence vraiment d'une force beaucoup plus puissante que celle de l'homme. Et évidemment, la confrontation entre cette intelligence-là et puis l'intelligence biologique humaine pourrait créer un certain nombre de crispations, disons, voire la machine prendrait la main sur l'homme. Donc ça, c'est un petit peu le fantasme, mais je pense que il est important de pouvoir discuter cette problématique, parce que, en fait, pour l'instant, c'est une zone de non-droit. La notion de droit en intelligence artificielle n'a pas été vraiment débroussaillée. Et donc, nos interlocuteurs de cet après-midi vont essayer de poser cette problématique en essayant de rassurer, évidemment, nos concitoyens, parce que l'intelligence artificielle, à mon sens, c'est plus quelque chose de positif que négatif.
Oui, on le voit notamment avec les voitures automatiques, par exemple, quand il y a un accident, qui est responsable?
Exactement.
C'est compliqué, oui. La semaine de la recherche donc, affiche très clairement l'objectif de partager, de transmettre, de rencontrer. Est-il important pour les chercheurs de rencontrer le grand public ?
Alors, oui, parce qu'en fait, souvent les chercheurs, en tout cas dans l'université, vivent un petit peu dans leur tour d'ivoire. On parle entre eux, donc dans ce qu'on appelle le milieu académique, ou exposent leurs découvertes à travers ce qu'on appelle des conférences. Mais ça reste un dialogue de spécialistes, un circuit fermé. Je pense qu'il est important dans le cadre du financement de la recherche tel qu'on le perçoit en France, c'est-à-dire, pour être précis, dans le cadre de notre université, c'est 75% d'argent public, de montrer à nos concitoyens que l'argent qui est dépensé pour irriguer nos unités de recherche sert évidemment à créer de la connaissance, mais aussi la connaissance qui va servir à améliorer leur vie. Oui. Et donc, il est important de pouvoir un petit peu changer de langage en utilisant des mots peut-être plus simples pour partager ce savoir et montrer que sur les grands défis sociétaux qui ont été mentionnés en tout début, donc le climat notamment, eh bien, l'université est en capacité d'apporter des solutions concrètes qui, je l'espère, rassurera nos concitoyens.
Oui, vous allez même plus loin, puisque dans le programme, il y a les sciences participatives.
Tout à fait.
Par exemple, en médecine, en génétique, ils s'appuient sur les profanes également, le débat entre profanes et experts sur faire avancer les choses.
Ouais. Voilà, et puis il y a des associations de citoyens qui mesurent le nombre d'oiseaux qui volent à tel endroit, etc. Et c'est extrêmement utile, parce que ça permet d'avoir une cartographie à peu près en temps réel sur des espèces biologiques qui peuvent être menacées.
Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de collègues enseignants, chercheurs impliqués. A-t-il été facile de mobiliser vos collègues pour cet événement, qui est une grande ampleur ?
Alors, c'est une semaine, effectivement, comme vous l'avez rappelé, qui est extrêmement dense. Et on a fait en sorte qu'il y ait à peu près 50% de nos collègues qui viennent de nos unités, et puis 50% d'extérieur, parce que c'est aussi important de partager leurs connaissances, de montrer la richesse de cet écosystème de la recherche en France, avec aussi quelques personnalités étrangères, notamment du Canada, qui viendront nous exposer leur savoir. Et donc c'est un projet qui en fait a démarré il y a 6 mois, donc qui est un projet de longue haleine, et c'est assez compliqué en fait, parce qu'il faut mobiliser nos collègues 6 mois avant l'événement.
Oui, bien sûr, ouais. C'est pas facile, non?
Voilà, et donc nous espérons évidemment attirer beaucoup de public, parce que l'événement, je pense, est la hauteur de nos ambitions.
Oui, oui, enfin, on le voit, il y a une très grande richesse. Pour finir, pour être pratique, quel mot-clé faut-il entrer dans un moteur de recherche, je ne sais pas moi, Quant ou Google, pour en citer deux, pour retrouver le programme et les différents lieux et horaires de ces rencontres? Alors deux mots-clés peuvent suffire peut-être dans le moteur de recherche.
Moi je dirais le premier mot-clé c'est UBO.
Hein. UBO.
Donc si vous tapez UBO, vous allez avoir directement sur la page de notre site web une belle communication sur la semaine de la recherche. Vous cliquez, vous avez le programme journée par journée. Et alors, on n'a pas évoqué un certain nombre de, je dirais, d'événements qui peuvent aussi intéresser nos concitoyens. Je pense à l'événement les experts de l'UBO, puisqu'on nous avons créé un teaser qui est sur notre site, qui permet de montrer à partir de la résolution d'une énigme policière comment les technologies dont dispose cette université peuvent amener des éléments de réponse à la résolution d'un crime, sur le modèle un peu des séries américaines, les experts. Nous allons aussi avoir un concours Ma thèse en 180 secondes agrémenté d'un concours senior. Donc je pense que
ça doit être bien. Donc les seniors, les chercheurs qui ont déjà 40, 50 ans vont parler de leur thèse.
Tout à fait, en 3 minutes. Et une thèse souvent passée 10 ans, 20 ans, 30 ans, 30 ans en arrière. Donc l'exercice sera assez ludique et nous espérons aussi que les chercheurs, disons les plus jeunes, verront que les seniors, même si le concours à l'époque n'existait pas, auront aussi à cœur de montrer qu'ils sont capables de faire l'exercice. Alors vous avez mentionné Jean-Luc Chrétien tout à l'heure, je pense que c'est aussi important de venir écouter la réalité du terrain, c'est-à-dire quelqu'un qui a été dans l'espace. Il n'y a pas beaucoup de Français qui ont été dans l'espace, c'est le premier spationaute européen qui a participé à des missions Soyouz, et donc je pense qu'il viendra avec quelques films qui montreront que c'est vraiment un enjeu fort. On se rappelle tous du film Gravity, où il y avait des débris qui venaient polluer une mission. Typiquement, Jean-Luc Chrétien a été témoin de ce genre oui, d'accident, et il pourra évidemment nous en faire part.
Donc tout cela se passe à l'UBO du 3 au 7 février. À quel endroit précisément?
Alors, l'UBO, c'est une université qui n'est pas uniquement localisée à Brest, et donc nous aurons des événements à la fois à Brest, bien sûr, mais à Morlaix et à Quimper, notamment à Quimper, une session dédiée à l'agro-agri, à l'aliment durable. Donc les experts que j'ai mentionnés seront aussi proposés à Quimper et Morlaix, mais la majorité des événements aura lieu donc à la faculté des lettres et sciences humaines, donc à Ségalin, donc un endroit vraiment central sur la place de Brest. Tout est ouvert, tout est gratuit. Et donc je vous invite à consulter le programme pour pouvoir un petit peu réserver dans vos agendas les sessions qui vous intéressent.
Mais peut-être un dernier point sur les horaires, ça commence le matin à 9h et ça finit...
Alors ça commence en général à 10h, 10h midi, donc ça, c'est le matin, et puis l'après-midi 14h, en général 17h.
Et il y a même des soirées.
Avec une soirée de gala donc sur l'espace le mardi, et puis une soirée Ma thèse en 180 secondes qui se déroulera juste après la cérémonie de remise des diplômes de docteur, donc à la faculté des sciences, à la faculté des lettres, pardon, à Ségalin, et donc le concours MT 180 secondes aura lieu à Océanopolis, qui nous accueillera pour l'occasion, pour justement montrer que dans un lieu aussi partagé par les Brestois, nous sommes aussi capables avec l'université d'imaginer un événement qui a beaucoup de sens, avec beaucoup de jeunesse et de dynamisme.
Eh bien, merci beaucoup Christian Brosseau. Je rappelle que vous êtes professeur d'université et vice-président recherche et innovation à l'UBO, et que vous pilotiez donc cette semaine de la recherche.
Merci.
Un grand merci à Christian Brosseau d'avoir répondu aux questions de Radio-U. Un entretien réalisé par le médiateur scientifique des bibliothèques universitaires de Brest, Hervé Lemaine, qu'on remercie également. C'est vous qui le dites, continue en musique avec le titre Harlem du trompettiste Ibrahim Alouf. We'll be right back. écoutez toujours C'est vous qui le dites sur le 101.1 FM. Nous venons d'écouter le titre Harlem du trompettiste Ibrahim Alouf. À Brest, nous sommes toujours en compagnie de Nadine Raoult, présidente du Maquis. De l'aménagement du local au projet actuel, elle revient avec nous sur l'évolution qui a fait du Maquis un collectif participatif où chacun a laissé sa trace. Lionel Jaffray, metteur en scène et membre du Grain, nous parle, lui, des rencontres et du partage qui l'inspirent dans la mise en scène de ses spectacles. Un reportage d'Eva, reporter à Radio U, réalisé dans le cadre du programme L'économie autrement de la Corlab, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne.
L'économie autrement, le rendez-vous quotidien de l'économie sociale et solidaire en Bretagne.
Alors, il y aura qui comme
maquilleur? Il y aura Thomas, moi, et sans doute Nadine. De toute façon, on a déjà fait tout le ménage du maquilleur.
Beaucoup participé à la transformation du lieu, qui était une supérette avant.
Tout ça, c'était une supérette?
Ouais.
Ah.
Mais c'était une supérette. Après, ça a été un autre lieu de spectacle aussi, le Kraken. Eh ben, allons voir.
Allons voir les photos. Les photos.
Il y avait tout un mur là, on ne savait pas ce qu'il y avait derrière. Donc, on a vraiment défoncé ce mur et derrière, on a trouvé les anciens frigos de la supérette. Où il y avait encore les crochets de boucher. Et un coffre-fort.
C'est vrai?
Ah, mais il n'y avait rien dedans.
Le coffre-fort est parti, on ne sait pas ce qu'il y avait.
Bon. Mystère.
Ouais.
Ah oui, il y a un piano dans les toilettes. C'est original.
Donc voilà l'ampleur. Voilà l'ancien couloir, l'ampleur des travaux.
Et il y a eu combien de temps de travaux à peu près?
Bah, on va dire... 6 mois...
Intensif ou alors
c'est difficile à dire parce que on a travaillé sur des week-ends où on mobilisait des équipes entières. Ceux qui pouvaient venir en journée, venaient en journée, mais c'est beaucoup le week-end qu'on a travaillé. Ce qui fait aussi la force du collectif et puis la légitimité de chacun de s'approprier le lieu, puisque... Là, il y a quelqu'un qui sait qu'il a fait 12 mètres carrés de peinture.
Tout le monde a mis les mains à la pâte un peu.
Je m'appelle Lionel Jaffray, je suis metteur en scène et je travaille dans une compagnie avec mes collègues qui sont ici présents.
Bonjour.
Qui s'appelle Le Grain. Et Le Grain, c'est une compagnie de théâtre et on travaille particulièrement sur ce qu'on appelle les écritures scéniques du réel. On réfléchit à des formes de théâtre qui s'inspirent du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire de nos voisins, du quartier dans lequel on vit, de la ville dans laquelle on travaille. Puis on participe un petit peu au débat citoyen, politique, à travers nos pièces de théâtre. Par exemple, on va aider des chômeurs à prendre la parole à travers le théâtre, à travers des écritures scéniques. Ou des scientifiques aussi. Voilà, on rencontre des gens et à partir de ces rencontres, qui sont riches, qui sont fortes, on essaye de construire des objets artistiques de théâtre sur scène.
Cher ventre hystérique du capitalisme addictif, entre le premier jour où je suis arrivé sur le terrain et aujourd'hui, mon désir de faire des tableaux Excel et de colorier des fromages a chuté de 87%. On remarque deux moments particulièrement saillants dans cette chute, ici et là. Sur la même période, l'intensité de mes doutes existentiels a progressé de 38%.
Le Grain est une des compagnies fondatrices du Maquis. Oh, et même, j'ai envie de dire, on y est un peu depuis 25 ans, quoi. C'est-à-dire depuis la fondation...
94.
En 94, d'une compagnie qui s'appelait Les Filles de la Pluie, donc qui a été créée au lycée de l'Iroise, à Brest. Et donc, en fait, cette histoire du Maquis aujourd'hui vient de là.
Ce reportage a été réalisé par la Corlab. Retrouvez-le en podcast sur corlab.org.
C'est vous qui le dites est terminé pour aujourd'hui et pour cette semaine. Un grand merci à Christian Brosseau, enseignant-chercheur à l'UBO, en charge de l'organisation de la Semaine de la Recherche de l'UBO. Une interview réalisée par Hervé Lemaine, médiateur scientifique à la Bibliothèque universitaire de Brest. Un grand merci à lui. Et un merci également à Eva, reporter à Radio U, pour son reportage au Maquis, réalisé dans le cadre du programme L'économie autrement. Retrouvez cette émission en podcast, ainsi que toutes celles de la semaine, sur le site de Radio U. Bonne soirée à vous sur Radio U, sur le 101.1 FM, à Brest.